Vous écoutez
RMC.
Jeudi 4 juin,
l'info sur RMC.
Céline Kallmann est là pour les infos, il est 8h04. Céline, bonjour.
Bonjour à tous. Les enfants sont très peu contagieux et ne contractent quasiment pas le Covid-19, résultat d'une étude menée par le pédiatre Robert Cohen. Il sera sur RMC juste après ce journal. Il préconise une ouverture plus large des écoles. L'affaire Maddy McCann, relancée, un pédophile multirécidiviste actuellement incarcéré en Allemagne, se trouvait au Portugal lors de la disparition de la fillette il y a 13 ans. Puis les syndicats et patronats à l'Élysée cet après-midi. Objectif, trouver des solutions pour préserver l'emploi durement touché par la récession liée à la crise. Bienvenue à tous sur RMC. Les médecins ont longtemps pensé que le Covid-19 est apparu, que les enfants étaient des vecteurs du virus en puissance, sauf que pas du tout. Une étude menée par le professeur Robert Cohen, vice-président de la Société française de pédiatrie, démontre que les enfants sont non seulement très peu contagieux, mais qu'en plus, ils ne contractent quasiment pas le virus. D'où cette question, faut-il maintenir les conditions sanitaires drastiques imposées en ce moment dans les écoles? Les médecins appellent à un retour à la normale. Rémi Hink, Mao Becker-Granier.
Oscar, 9 ans, est en CM1. En ce moment, il va à l'école un jour par semaine, le mardi, et il aimerait beaucoup y aller plus souvent pour voir ses amis.
Comme ça, je peux les voir un peu plus et de deux, être un peu plus en liberté dans la cour, parce qu'ici, on est un peu en prison.
Sa maman Sophie, mère de deux autres enfants, ne comprend tout simplement pas ce qui empêche la réouverture totale des établissements scolaires.
Là, on apprend avec cette étude que le risque est relatif. Qu'est-ce qui coince pour que cette jeunesse-là reprenne un rythme normal, et d'un, par souci intellectuel, et puis par conséquence psychologique? Qu'est-ce qui coince?
Christophe Battard est l'un des pédiatres qui ont participé à cette étude. Pour lui, le protocole sanitaire mis en place dans les écoles est trop strict.
Il faut donc réouvrir les écoles largement et faire que les enfants retournent tous à l'école pour que la vie et le travail des adultes reprennent avec les mesures barrières.
Ce sont le plus souvent les adultes qui contaminent les enfants et non pas l'inverse, explique le pédiatre.
Et le professeur Robert Cohen sera votre invité, Jean-Jacques, juste après ce journal. L'OMS révise sa position sur les tests de l'hydroxychloroquine comme remède au coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé autorise de nouveau les tests après le rétropédalage du journal médical de Lancet. L'Agence française du médicament affirme qu'elle va réexaminer sa position. 15h cet après-midi, troisième réunion avec les partenaires sociaux depuis le confinement. Et cette fois, les syndicats et le patronat seront en chair et en os à l'Élysée. Il sera évidemment question de préserver l'emploi au maximum. Il sera aussi question de l'apprentissage. La crise du coronavirus a marqué un coup d'arrêt aux embauches. En Charente-Maritime, à Bourg-Saufranc-le-Chapuis, à côté de l'île d'Oléron, Nicolas Paolersi est allé à la rencontre d'un plombier chauffagiste.
Ils se connaissent depuis plus de 3 ans. Logan a fait tous ses stages de 4e et 3e chez Eric. Le contrat d'apprentissage était prêt à être signé, mais la crise sanitaire et économique a changé la donne. Eric Larigaldi.
Impossibilité de d'assurer un chiffre d'affaires constant et raisonnable, enfin en tout cas en rapport avec ce que je faisais les autres années. Du coup, la décision a été prise de retarder la signature du contrat avec Logan, quoi.
Une décision difficile à encaisser pour Logan, 17 ans.
Avec le Covid-19, c'était difficile. Je savais pas dans quelle direction me mettre après.
Eric Larigaldi vit mal la situation.
Le plus dur, c'est vis-à-vis de lui, en fait. Je me sens responsable, entre parenthèses, de son avenir. J'arrive pas à assumer complètement la chose malgré tout, humainement, justement.
Ouais. Eric attend désormais un geste de l'État pour la survie de son entreprise.
Les reports de charges, c'est bien. Mais moi, je pense que ces charges-là, il faut les faire sauter. Ouais. Si la boîte coule, les charges ne seront pas payées. Ce n'est pas de l'argent qui va rentrer pour l'État non plus.
Eric espère que la situation se redressera rapidement, avec l'espoir de pouvoir enfin embaucher Logan.
Attention, date limite pour faire sa déclaration d'impôt en ligne. Vous avez jusqu'à ce soir si vous habitez les départements de 1 à 19, un peu plus pour les autres. Et pas la peine de se déplacer pour vous faire aider. Les centres et trésoreries sont toujours fermés, au grand désespoir de certains contribuables. Reportage en Seine-et-Marne de Romain Poiseau.
Un centre des impôts qui reste sous confinement et des citoyens qui réclament des conseils au portail, à l'interphone.
Vous nous téléphonez quand vous serez de retour à la maison?
Oui, seulement les conseils au téléphone ne sont pas toujours suffisants pour remplir correctement sa déclaration, comme l'a constaté Kevin.
On m'a donné une réponse, mais qui est toujours pas claire. Pour moi, j'ai pas accroché cette case-là et je sens que je vais avoir une surprise à cause d'une éventuelle demi-part supplémentaire et voilà. Ouais.
Yaya, 40 ans, lui aussi s'est cassé le nez devant la porte du centre des finances publiques. Il ne comprend pas la raison de cette fermeture.
Partout c'est ouvert, sauf les impôts.
Il a été fermé pendant 3 mois. Il est nécessaire d'ouvrir pour recevoir les gens, surtout pour la déclaration d'impôts.
La raison invoquée par le Centre des impôts.
Les dispositifs de protection ne sont pas suffisants pour accueillir les usagers sans rendez-vous.
Guillaume Lefier du syndicat Solidaire Finances Publiques estime qu'il y aura des laissés pour compte.
On souhaitait le report de cette campagne d'impôt sur le revenu. Maintenant que cette campagne se déroule en mode dégradé, il y a toute une partie de la population qui va être oubliée, puisque l'accueil physique, c'est 4,5 millions d'usagers. Tout ne se résout pas sur un coup de téléphone.
Le syndicat redoute une augmentation importante des contentieux cette année.
RMC 8h09, la requalification en meurtre du décès de George Floyd, c'est ce que réclamaient depuis 10 jours des centaines de milliers d'Américains. Le policier à l'origine de la mort de l'Afro-Américain a été inculpé de meurtre au second degré, l'équivalent d'un homicide volontaire sans préméditation. Les 3 autres policiers présents lors de l'interpellation sont aussi poursuivis. Cédric Fesch, vous êtes le correspondant d'RMC aux États-Unis.
Ça y est, les 4 policiers impliqués dans la mort de George Floyd ont tous été arrêtés. Les 3 derniers policiers ont été arrêtés hier et inculpés pour complicité d'homicide. Ce sont les 3 collègues du premier policier arrêté vendredi dernier, 4 jours après les faits, celui qui avait maintenu son genou sur le cou de George Floyd. Alors lui, il était inculpé pour homicide involontaire, c'est désormais homicide volontaire. Il risquait 25 ans de prison, c'est désormais 40. Et ses 3 collègues risquent, eux, entre 10 et 40 ans de prison. Les obsèques de George Floyd commencent aujourd'hui à Minneapolis avec un service funéraire. Un second service funéraire lui sera rendu samedi en Caroline du Nord où il est né et il sera enterré mardi à Houston où il a passé la plus grande partie de sa vie.
Maddy avait quasiment 4 ans lorsqu'elle a disparu de la chambre d'hôtel au Portugal dans lequel séjournait sa famille pour les vacances. C'était en 2007, 13 ans après les faits. Cette disparition mystérieuse qui a connu de nombreux rebondissements est peut-être en train d'être élucidée. Les policiers britanniques, portugais et allemands s'intéressent à un nouveau suspect. Délinquant sexuel déjà condamné à plusieurs reprises, Mark Cranwell est inspecteur en chef de la police britannique.
He is a German national.
Le suspect est de nationalité allemande, emprisonné dans une autre affaire. Il est blanc, il a 43 ans maintenant, à l'époque il avait 30 ans, mais il aurait pu en faire entre 25 et 32. Il y a sûrement eu des personnes dans le passé qui ont pris peur et n'ont pas parlé à la police. Vous savez peut-être certaines des choses qu'il a faites alors. Je m'adresse à tous ceux qui pourraient avoir des informations. Il vous a peut-être confié la disparition de Maddy et ce qu'il s'est passé cette nuit-là.
In confidence and tell you what happened that night.
5 départements du Sud-Est en vigilance orange inondation. Hier soir, de violents orages ont traversé l'Île-de-France, accompagnés parfois de grêles. Pas de festival de Cannes cette année, vous le savez, mais il y a quand même eu une sélection officielle rendue publique hier par le festival. 56 films retenus et qui pourront utiliser le label de la sélection officielle lors de la diffusion dans les salles. Romain Cluzel.
Les réalisateurs se sont bousculés pour présenter leurs films au festival malgré l'annulation. 2067 films cette année, un record apprécié par Pierre Lescure, président du festival.
Ça ne pouvait pas s'arrêter. Et on sentait que ça butait contre la porte du cinéma fermé, qui allait ouvrir un jour, fallait qu'on soit là pour l'accompagner. Je pense que c'est l'illustration émouvante et très spectaculaire de la force annuelle sur 365 jours. Du Festival de Cannes.
Dans la liste des réalisateurs habitués de la croisette, comme Mai Wen, Steve McQueen ou Wes Anderson qui présente The French Dispatch. Mais aussi des nouveaux, comme l'acteur Viggo Mortensen qui s'essaye derrière la caméra. Pas de palmarès pour départager ses films, mais ce n'est pas l'essentiel pour le délégué général du festival, Thierry Frémaux.
Puisqu'il y a 60 millions de sélectionneurs, eh bien chacun pourra, à partir de cette liste-là, faire son la sélection officielle d'un Cannes qui eût pu avoir lieu.
Certaines sorties auront lieu dans quelques semaines, comme celle du film de François Ozon, Été 85, prévu le 15 juillet.
Et je rappelle que les cinémas rouvrent le 22 juin, Jean-Jacques.
Oui, le 22 juin. On a hâte aussi de retourner au cinéma. Hein. Bien, il est 8h13. Le professeur Robert Cohen est avec nous. Merci.
Bonjour.
D'être là, professeur. Vous êtes pédiatre, infectiologue à l'hôpital de Créteil, dans le Val-de-Marne, pendant le confinement. Nous nous sommes nous avons beaucoup parlé des enfants avec vous. Et là... Vous nous parlez d'une étude très intéressante, je trouve vraiment très très intéressante sur les enfants, étude qui montre combien les enfants sont épargnés par ce virus, par ce coronavirus. Ça confirme ce qu'on savait, professeur, ce qu'on pressentait, professeur Cohen.
Ça confirme ce qu'on pressentait et les résultats sont presque plus favorables que ce qu'on attendait encore.
Alors, je rappelle, je vais donner la condition de l'étude. Entre le 23 avril et le 12 mai, 27 pédiatres 27 pédiatres ont testé, au hasard, je dis bien au hasard, c'est très important, 605 enfants d'Île-de-France. Alors qu'à ce moment-là, l'Île-de-France était la région la plus touchée par l'épidémie. 53% étaient asymptomatiques et 283 symptomatiques. Seuls 11 enfants sur tous ces enfants ont eu un test PCR positif, soit 1,8%. C'est ça ?
Oui, ça c'est ce qu'on attendait. Mais ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que ces enfants avaient en même temps des anticorps pour la plupart d'entre eux.
Ah bon, ça veut dire même ceux qui étaient contaminés avaient des anticorps.
Même ceux qui étaient, ça plaide pour deux choses. La première, c'est qu'ils étaient probablement pas contagieux, ce qu'on confirme par la technique de PCR que nous avons utilisée, ou qui montre en fait sur ces 11 enfants, il y avait peut-être 3 ou 4 qui étaient potentiellement contaminants.
Voilà.
Les autres ne l'étaient pas.
On ne sait même pas si les 3 ou 4 étaient contaminants, ils étaient potentiellement contaminants.
Et les autres,
non.
Et les autres avaient déjà des anticorps et avaient des PCR à des titres très faibles, des concentrations d'anticorps très faibles et très incomplètes. Donc tout ça montre que le risque était extrêmement faible. Et on voit aussi que ce sont les parents qui les ont contaminés à 90%. Il y a toujours eu un parent malade avant eux. Bon, on était dans la période du confinement, ils ne pouvaient pas se contaminer trop par les autres enfants des écoles, mais c'est comme ça, c'est la transmission. Depuis le départ, on sait qu'elle se fait plutôt du sens adulte-enfant et pas enfant-adulte, et pas enfant-enfant.
Ouais.
Et le fait d'avoir des frères et sœurs ne changeait pas le risque de contamination.
Mais c'est très intéressant. Alors, évidemment, il va falloir savoir pourquoi. Mais ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé ici de l'immunité croisée. C'est-à-dire que les enfants sont bien souvent victimes de rhumes ou de petits syndromes grippaux.
Ils ont le nez qui coule en permanence.
Et ce sont souvent des coronavirus, ces rhumes.
Très souvent, pas que des coronavirus.
Mais des virus dans tous les cas.
Et on les trouve même chez des enfants qui n'ont pas de symptômes. Les autres, sont très bien adaptés à l'homme, très bien adaptés aux enfants. Et on trouve très souvent des coronavirus dans nos prélèvements.
Ça veut dire quoi ? Que peut-être que les enfants sont immunisés tous ces petits rhumes, même à ce nouveau coronavirus.
Et il y a une autre hypothèse, c'est aussi que du fait que les enfants sont très souvent d'autres virus, même que le coronavirus, ont une immunité plus entraînée que celle de l'adulte.
Ah d'accord.
C'est ce qu'on appelle l'entraînement immunitaire, c'est un concept qui est apparu de ces derniers mois ou années, où on montre que vraiment, quand ils ne connaissent pas un microbe, ils font plutôt mieux que nous que plutôt moins bien, quand ils ne le connaissent pas.
Quand ils ne le connaissaient pas encore. Mais vous, qui êtes pédiatre, vous devez être heureux de ça.
Ah, nous, on est heureux. Ce qui nous a rendu malheureux, c'est le fait qu'on a été tellement lent pour la réouverture des écoles.
On est trop précautionneux, franchement, professeur.
On est largement trop précautionneux, très largement trop précautionneux.
Oui. Ouais, il faut absolument assouplir les règles sanitaires. Je posais la question au ministre mardi, mais bon, il avait l'air d'être réticent. Il faut absolument assouplir les règles sanitaires pour l'ouverture. Si on veut que l'école remarche, c'est évident. Aujourd'hui, c'est bien pour les parents, c'est bien pour les enfants. Je dis d'abord, c'est bien pour les enfants. Vous êtes pédiatre.
Oui.
C'est bien pour les enfants que l'école.
Un risque extrêmement faible. Et tout ce qu'on voit des pathologies liées à l'absence des autres enfants liés à l'école, on voit énormément de patients qui viennent nous voir parce qu'ils ont des troubles psychologiques ou des troubles psychosomatiques, voire de vraies maladies liées à l'absence de l'école. Donc, c'est pas sans risque.
Il y a de plus en plus d'enfants qui souffrent de troubles liés à l'absence de l'école.
Mais c'est ça. C'est-à-dire que si on pouvait dire, bon, on veut pas prendre de risque.
Oui.
Ça n'existe pas, ne pas prendre de risque. Puisque c'est prendre le risque sur d'autres choses.
D'accord. Oui.
C'est-à-dire, peut-être réduire un peu le risque de coronavirus qui est infinitésimal, comme on l'a vu, mais augmenter ce risque de pathologie psychologique, psychiatrique et somatique. C'est ça qu'on veut faire passer. Et les vacances arrivent derrière, ça sera pas un mois sans école, ça sera finalement 6 mois sans école.
Ouais.
C'est ça la vérité.
Et les dégâts, peut faire des dégâts.
Ah, tout à fait, ça fait des dégâts en décrochage scolaire, ça.
Oui.
Tout le monde a bien compris, mais ça fait des dégâts sur la psychologie et sur les maladies psychosomatiques.
C'est-à-dire les enfants.
Par exemple, je vous donne un exemple. À ma consultation, je vois presque un enfant sur 3 ou 4 qui vient pour douleur abdominale. On sait que par définition, c'est
ce que ça veut dire.
Les enfants sont pas bien, ils ont mal au ventre. Ou ils viennent pour des maux de tête intenses sans cause. En fait, la cause, on sait très bien ce que c'est. C'est leur désarroi psychologique qui déclenche ces symptômes. Et de temps en temps, c'est des pathologies plus graves. Il faut qu'on soit extrêmement attention et pas dire pas de risque, on fait un protocole sanitaire. Ne le faire, c'est augmenter le risque pour beaucoup d'autres choses. Et ça, le bilan à la fin, je pense, risque d'être très lourd.
Le bilan risque d'être négatif. C'est-à-dire qu'on veut tellement protéger, qu'on oublie. Mais pardon, je vais être très dur. Qui veut se protéger? Ce sont pas les enfants. Ce sont les adultes qui veulent se protéger. Encore une fois, les adultes qui pensent à eux et qui ne pensent pas au bonheur et au développement des enfants.
Ça c'est une règle depuis quelques dizaines d'années de société, je pense.
Oui. Mais vous, pédiatre, ça doit vous faire enrager.
Clairement, ça nous fait clairement enrager de voir que finalement, c'est eux qui payent une facture très, très, très importante à une pathologie qui n'était pas grave pour l'immense majorité d'entre eux. Clairement.
Merci, professeur Cohen, d'être venu nous voir ce matin. Passionnant, vous êtes toujours passionnant. 8h20, merci d'être avec nous. Mathieu.
À suivre, les entreprises françaises ont produit des masques en masse. Eh bien, ça n'a servi strictement à rien. Guillaume Paul va nous expliquer pourquoi dans un instant sur RMC.
RMC, Romain Direct.
Philippe est en colère. Comme Robert Cohen, Philippe nous écrit en disant « C'est vraiment pitoyable, c'est dégueulasse ce qu'on nous a fait croire. On nous a foutu la trouille avec de dire que les enfants étaient très contaminants. On se rend pas compte de toutes les conséquences que ça a eu, le gardiennage, le travail, la liberté des enfants. » Gérard nous dit « Évidemment qu'il faut rouvrir les écoles comme avant, y remettre tous les enfants parce qu'en plus ils vont prendre un retard énorme. » Bertrand nous dit « Pareil pour les colonies de vacances. Il faut absolument que les enfants puissent y accéder cet été. » Les professeurs le veulent aussi. Alain nous dit, les profs, sur 160 profs dans mon lycée, il n'y en a que 10 qui ne peuvent pas reprendre pour raison de santé. Nous voulons reprendre, dit Alain, cri du cœur ce matin. Et puis Cédric témoigne aussi, son fils est retourné au collège pour déposer des documents il y retourne la semaine prochaine. C'est devenu un bunker, on en fait beaucoup trop. Le fils de Cédric, comme tous ses camarades, veulent absolument retourner à l'école le plus vite possible.
RMC, 6h-9h.
Romain Direct.
Il est 8h25, Guillaume Paul est avec nous. Bonjour Guillaume.
Bonjour Jean-Jacques.
Alors, quand même, la France, c'est un pays un peu à part dans le monde. Nous avons cruellement manqué de masques, oui. Et tout le monde a dénoncé. Et voilà qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un énorme stock de masques en tout genre, et notamment de masques en tissu, invendus.
C'est surréaliste. Alors pour prendre l'histoire, Jean-Jacques, il faut revenir un peu plus de 2 mois en arrière. Rappelez-vous, on est à la mi-mars. Le gouvernement cherche des masques absolument partout. Apparemment, c'est très difficile d'en faire venir rapidement de l'étranger. Donc le gouvernement décrète la mobilisation nationale, et en France, vous avez environ 300 PME disséminées un peu partout qui, pour soutenir l'effort de guerre, disent « bon, on va chambouler nos organisations, on va faire des masques en tissu lavable et réutilisable ». Donc elles commencent à en produire. Alors d'abord pour les personnels hospitaliers, parce que c'est la priorité, et puis on se rend compte au fur et à mesure qu'en fait c'est toute la population française qu'il va falloir équiper en masques. Donc elles produisent de plus en plus. La région Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, les PME vont arriver très vite à produire 5 millions de masques par semaine. Et l'État, qui est toujours complètement déboussolé, dit « ah bah voilà, je vous passe en masse de grosses commandes ». Et puis les semaines passent, et puis qu'est-ce qui arrive? Bah finalement, l'État, à force de persévérance, arrive à faire venir ces masques de l'étranger qu'il avait commandés. Et ils sont beaucoup moins chers, forcément, ces masques. Forcément. Pour vous la faire courte, un masque lavable et réutilisable 20 fois en France pour le produire, c'est à peu près 3 euros. Les masques qu'on fait venir en provenance d'Europe centrale, d'Asie, de Chine, c'est quelques dizaines de centimes d'euros. La semaine dernière encore, le gouvernement a passé une grosse commande de masques du Vietnam, 10 millions de masques du Vietnam pour quelques dizaines d'euros.
Donc, si j'ai bien compris, on passe des commandes de masques en tissu au loin, alors qu'on a des fabricants en France, d'un seul coup, on n'a plus de masques en tissu fabriqués en France.
Ce qui se passe, c'est que depuis une semaine, l'État est en train de dire à toutes ces PME, bah écoutez, on vous remercie, mais maintenant on a ce qu'il faut, donc on n'a plus besoin, on annule quasiment toutes vos commandes. Alors qu'on a été venu les chercher.
C'est pas vrai.
On était venus les chercher, ces petits PME. On les avait on leur avait passé les commandes, on leur avait demandé de former leurs salariés, on leur avait fait investir du matériel pour construire ces masques. Et là, elles l'ont mal veste parce qu'elles se disent finalement, si j'avais pas proposé mon aide généreusement il y a 2 mois, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais mis mes salariés au chômage partiel et puis on aurait fait le dos rond en attendant que la crise se termine. Sauf
Mais
que là,
dites-moi, double peine pour elles.
Mais oui.
Parce qu'en plus, elles n'ont pas mis leurs salariés donc au chômage technique.
Elles n'auront pas d'aide de l'État. Et en plus, elles ont continué à travailler alors qu'à l'arrivée, elles vont rester avec des stocks d'invendus, des millions, voire des dizaines de millions de masques. Et ça, financièrement, il y en a certaines, me disait-on hier, qui risquent d'y laisser des plumes. Bon, à cause de la volte-face du gouvernement.
Si vous avez le témoignage d'un de ces chefs d'entreprise, je prends demain matin et je le mettrai à l'antenne demain matin pour montrer parfois l'incurie de l'administration française et de l'État. Il est quelle heure ? Il est 8h28. Merci Guillaume, t'es passionnant. Merci à toutes celles et ceux qui sont avec nous le matin. Vous savez combien nous sommes heureux d'être ensemble le matin. 32-16, notre lien. Je voudrais remercier encore une fois toute cette équipe, mon équipe qui est absolument formidable. Et demain, nous nous retrouverons évidemment toujours avec le même plaisir. Rachida Dati sera là dans un instant sur RMC et BFM TV.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Il est 8h34, Rachida Dati est avec nous. Rachida Dati, bonjour.
Bonjour.
Merci. Votre liste au premier tour des municipales à Paris a obtenu 22,7% le 15 mars, contre 29,3% pour Anne Hidalgo et 17,7% pour Agnès Buzyn. Rachida Dati, est-il vrai que vous avez eu plusieurs échanges téléphoniques avec Emmanuel Macron ces dernières semaines ?
Alors, Monsieur Bourdin, j'ai vu effectivement le petit papier.
Ouais, c'est vrai ou faux ?
Non, mais je veux vous dire la réalité des choses, parce qu'au bout d'un moment...
Oui,
mais
il vaut mieux dire la réalité.
Bien sûr, mais est-ce qu'une seule fois vous m'avez prise en défaut ? Sur même des choses, j'ai fait des interviews avec vous depuis très longtemps.
C'est vrai.
Et donc, je n'ai jamais été prise en défaut sur soit une trahison, soit un mensonge politique. À un moment donné, il faut dire les choses. Emmanuel Macron, je le connais depuis longtemps. Comme vous le savez, Jacques Attali, pour lequel j'ai travaillé à la Bird à Londres, quand il a eu la commission Attali lorsque j'étais garde des Sceaux, Emmanuel Macron faisait partie de cette commission.
Oui.
Et ensuite, quand il a travaillé à l'Élysée, il était très proche, puisqu'il doit beaucoup à Jean-Pierre Jouyet, qui est un ami intime. Et Jean-Pierre Jouyet, qui effectivement un ami de longue date, pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui est un grand commis de l'État, un grand serviteur de l'État. Et donc j'ai connu effectivement très bien Emmanuel Macron aussi par le biais de Jean-Pierre Jouyet. Et d'ailleurs, quand il était ministre de l'économie, on a parlé beaucoup, vous savez sur quel sujet ?
Non.
La lutte contre la radicalisation, qui était un sujet, avant même qu'il soit candidat à la présidentielle. La lutte contre les inégalités à l'école. Et d'ailleurs, moi je lui avais dit, et c'est parce qu'il ne connaissait pas cet outil, notamment des PMI, la protection maternelle et infantile, et j'avais dit la lutte contre les inégalités à l'école, ça commence depuis la crèche, depuis l'école maternelle et l'école primaire. Et à l'époque, la gauche avait supprimé les études dirigées, les internats d'excellence et les bourses au mérite. Et je me souviens, quand il était donc dans le gouvernement de François Hollande, je lui avais dit, Emmanuel, ce sont des erreurs. Pourquoi ? Parce que on coupe. Enfin, c'est-à-dire que nous, c'est pas de donner, c'est de donner plus à ceux qui ont moins sur la ligne de départ. Mmh. Et donc, on a toujours eu des échanges de cette nature depuis longtemps. On parle politique, on parle de la France, et même, vous savez, les manifestations qui existent aujourd'hui.
Oui.
Voilà. Et donc,
je vais y revenir,
sur la campagne municipale, bien sûr qu'on en a parlé, mais parce que moi, j'étais.
Ces dernières semaines, là.
Non, mais c'est pas.
Oui, non, mais
on
si.
A échangé.
Vous avez parlé de la stratégie adoptée à Paris.
Non, parce que.
À aucun moment.
Non, c'est pas une stratégie. Monsieur Bourdin, on a parlé de politique parce qu'effectivement, je vais vous dire, à l'époque, quand Monsieur Griveaux était candidat, beaucoup, vous savez, nous on est parti de 8%. 8% à Paris. Et donc, personne n'avait pu imaginer. Non, mais attends, je vous explique pourquoi il faut que vous ayez. Parce que c'est trop facile de dire.
Non, c'est pas facile.
Si, c'est facile parce qu'on
Rachida
dit.
Moi, je veux simplement savoir.
Et à l'époque, on m'avait demandé, y compris dans ma famille politique, de ne pas porter l'étiquette LR à Paris. Moi, je suis convaincue que la droite existe en France et elle existe à Paris. Mmh. Et si, effectivement, on finit avec des mauvais scores, c'est que peut-être on n'est pas assez à l'écoute, on n'est pas assez clair sur nos convictions et nos engagements.
Revenons. Donc, bien. Revenons. Alors, vous avez parlé. Voilà. Est-ce que ces derniers temps, pendant le confinement, après le premier tour, vous avez parlé ?
Non, mais ça, j'ai pas à vous répondre là-dessus, Monsieur Bourdin.
Mais c'est vrai ou pas ? Vous avez eu des échanges ou pas ?
Mais oui. Non, mais moi, j'ai des échanges depuis toujours.
Bon, donc vous en avez eu. Voilà. Donc vous en avez eu.
Non, mais qu'on soit au clair. On n'a pas.
Vous avez discuté d'alliance en vue du second tour.
Faux.
Faux.
Voilà.
C'est faux.
Faux.
Vous n'avez pas parlé d'alliance.
Faux.
Vous avez parlé de stratégie adoptée.
On n'a pas du tout parlé de la stratégie municipale à Paris.
Il paraît que François Bayrou aurait joué les entremetteurs.
Ah non, pas du tout. François Bayrou, alors pareil, François Bayrou, oui. Comment l'ai-je connu? Je l'ai connu par Simone Veil,
oui.
Au moment où il était ministre de l'Éducation nationale et qu'il était en difficulté, notamment pour la gestion. C'était le début des foulards à l'école, avec des problèmes dans de nombreuses écoles. Simone Veil m'a demandé de pouvoir travailler pour lui dans son cabinet sur ces sujets. Et donc, nous nous connaissons avec Marielle de Sernaise et François Bayrou depuis cette époque. Et nous sommes amis.
Bien. Voilà. Alors, Agnès Buzyn était là hier. Je ne sais pas si vous l'avez regardée ou écoutée hier matin.
J'ai écouté.
Elle était là. Elle est candidate. Donc, est-ce que vous pensez qu'elle est candidate pour son honneur personnel?
Elle ne devait pas revenir dans cette campagne municipale.
Vous serez, à sa place, vous ne seriez pas revenu. Vous croyez avec votre caractère?
Mais je vais vous dire, moi, c'est toujours facile de dire à votre place, je fais.
Oui.
Je veux simplement le commentaire que je fais, qui est un commentaire. Elle ne devait pas revenir dans cette campagne. De toute façon, en plus, pour quelqu'un qui est candidat, qui dit j'ai hésité, mais finalement j'ai, ça donne pas envie, hein. Surtout pas un combat pour Paris. Parce que l'enjeu de cette élection, c'est quoi? C'est finalement, est-ce qu'on en veut encore? Est-ce qu'on veut 6 ans de plus à Hidalgo? L'enjeu, il est simple. Voilà. La campagne municipale à Paris, voulez-vous 6 ans de plus à Hidalgo? Est-ce que vous voulez 6 ans de plus d'un Paris dégradé et d'un Paris qui décline? Est-ce qu'on veut ça ou pas? Est-ce qu'on veut continuer sur un Paris insécurisé, un Paris très sale, un Paris dégradé, sans vision, sans ambition? Un Paris qui décline, un Paris finalement confiné à vie, un Paris qui se
prépare. Agnès Buzyn avoir refusé tout accord avec vous.
Mais
alors, pas d'alliance d'appareil avec un parti, a-t-elle
mais
dit.
Mais non, mais moi je l'ai dit bien avant eux. Et moi, lors des débats avec Madame Buzyn, on va la mettre face à ces contradictions. Souhaite-t-elle revenir? Non. Elle est revenue parce qu'il y a une commission d'enquête parlementaire.
Pour ça, vous pensez?
Parce que, si vous voulez, elle pense que la campagne va lui servir de justification.
Parce qu'elle avait envie de se battre, alors, de laver, de je ne sais pas moi, alors, de retrouver son honneur, alors, par orgueil, par je ne sais pas.
Pour un responsable politique, revenir pour son honneur et son orgueil uniquement quand on est candidat pour une municipale comme une ville comme Paris. Monsieur Bourdin, vous n'avez pas été frappé hier, pas un mot pour les Parisiens, pas un mot pour le personnel soignant, pas un mot pour les victimes, pas un mot pour les malades, pas un mot pour effectivement de compassion, d'empathie. Elle n'était que sur elle-même. Moi, je suis choquée quand elle dit « je suis très heureuse de pouvoir m'expliquer ». Vous l'avez reprise d'ailleurs sur ce terme. Nous, on n'est pas heureux. Quand je rencontre les familles atteintes du Covid, quand je rencontre des personnels soignants qui ont été à genoux, à terre, en étant en première ligne. Elle a dit, je suis très heureuse, le système sanitaire a tenu le coup. Grâce, a-t-elle dit, je suis la première ministre à avoir fait autant pour l'hôpital. Le président de la République lui-même a dit que les réformes qu'il a portées étaient des erreurs. Mais le système sanitaire, et vous avez des médecins sur vos plateaux régulièrement, demandez-leur comment ils ont tenu, demandez-leur comment ils ont fait face. Ils ont fait face parce qu'ils n'ont respecté aucune norme, aucune contrainte qui leur avait été imposée, y compris quand il y a eu des diminutions de lits en réanimation. Ils ont rouvert des lits sans demander l'autorisation parce qu'il y avait une question de vie et de survie, pour ne pas dire une question de mort. Et donc aujourd'hui, moi, je trouve un peu indécent de ne pas avoir un mot pour effectivement l'ensemble de ces victimes, pour avoir un mot pour les Parisiens. Parce que pendant cette crise sanitaire, on a été aux côtés des personnes âgées, des personnes vulnérables, des personnes fragiles, mais aussi auprès des familles qui, pour certaines, n'ont même pas pu être aux côtés de certaines de leurs parents pour les accompagner dans leur dernier voyage. Et ben moi, je vais vous dire, c'est un peu indécent ce que j'ai entendu hier.
Bien, Rachida Dati, pas d'accord avec La République En Marche. Non. On est bien d'accord, sauf dans le 5e arrondissement.
Non, parce que...
Alors c'est quoi cette histoire du 5e?
Le 5e arrondissement...
ne comprend rien.
Non, mais alors moi, je vais vous le dire.
Dites-moi, parce que...
En tous les cas,
le maire sortant, Florence Berthoux, avait l'étiquette La République En Marche, et oui, voilà que vous alliez avec elle.
Alors,
oui,
je vous explique.
Vous êtes allié avec elle.
Je vous explique, Monsieur Bourdin.
Oui, allez-y.
On peut me reprocher plein de choses. Moi, on ne peut pas me reprocher le manque de clarté. J'ai toujours été dans la clarté, dans mes convictions, dans mes engagements, parce que ceux comme M. Guérini, qui dit, comme Mme Buzyn, qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Mais quelles sont mes valeurs? Vous connaissez mon parcours républicain, mais on devrait être très content que des parcours comme les miens, en étant partie d'où je suis partie, puissent arriver à plus haute responsabilité. Quelles sont mes valeurs? La trahison comme M. Guérini? Le mépris comme M. Guérini? L'arrogance comme Mme Buzyn? Non, ce ne sont pas mes valeurs. Ça, c'est vrai, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et donc, de la clarté.
De cette alliance.
De la clarté.
C'est là, pas une... vous êtes alliés. Non,
non alors... on n'est pas alliés.
Bon,
et c'est vrai que La République En Marche, Madame Buzyn elle-même, et jusque très tard, on s'est parlé au téléphone. Elle souhaitait que je sauve, je prends les termes, Madame Burkly et Madame Berthoud. Je vous le dis, et elle ne peut pas le démentir. Je n'ai pas voulu, j'ai refusé. Et donc, en me disant, si vous les sauvez, en contrepartie, on retire des listes dans le 10e, dans le 11e, dans le 13e, on fusionne par certains endroits. Elle ne peut pas le démentir, c'est la réalité. J'ai refusé. Madame Berthoud nous a appelés plusieurs fois depuis le début. Je ne lui avais jamais parlé au téléphone. Parce que d'ailleurs, j'avais appelé Madame Buzyn pour lui dire « Je ne ferai pas d'accord parce que vous ne voulez pas revenir dans cette campagne, dans votre dos, pour ne pas que vous ayez le sentiment que je profite d'une situation. » Et Madame Berthoud, jusqu'au dernier moment, nous a effectivement tendu la main. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas REM. Aujourd'hui, elle est divers droite. Elle n'est pas République En Marche.
Elle
ne l'est pas. On a eu un accord. Et je n'ai pas accepté de contrepartie.
Vous avez donc un accord. Vous avez donc un accord avec Florence Berthoud. On est bien. Donc elle votera.
Divers droite. Elle votera Dati.
Bien sûr. Elle votera Dati.
L'accord ne peut être que là-dessus.
Pour la mairie.
Bien sûr.
Votera Dati. Et pourtant, vous avez dit de cette femme, vous avez dit beaucoup de choses. C'était une traître. Vous avez dit les traîtres. Il y a des gens qui trahissent sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Puis je pense que des gens qui trahissent trahiront de nouveau. Peut-être vous trahir,
peut-être. Peut-être. Mais moi, je fais
C'est ce que vous avez dit d'elle. Et après, vous êtes d'accord avec elle.
Bien sûr.
Politique.
Non, c'est pas ça, la politique.
C'est ça.
C'est pas la politique. Parce que je n'ai pas fait un accord avec Madame Berthoud. J'ai fait un accord de liste avec ses colistiers. Et dessus, par exemple, le numéro 2, qui est un ami de Monsieur François Bayrou, Pierre Casanova, qui est quelqu'un de bien. Moi, j'ai fait un accord collectif. Mais ça n'est pas un accord avec la REM. J'y tenais absolument. Je veux de la clarté, de la cohérence. Et moi, je vais vous dire, Monsieur Bourdin, je vais plus loin que cela. Madame Hidalgo, aujourd'hui, fait campagne pour un segment de Parisiens. Quand vous voyez qu'il y a moins de 160 000 Parisiens qui ont porté leur suffrage sur le nom de Madame Hidalgo, sur 2,2 millions d'habitants, c'est un vote par défaut. Et donc, moi, effectivement, je m'adresse pas à un segment de Parisiens.
Oui.
Moi, je m'adresse à tous les Parisiens.
Je vais revenir sur
à tous ceux qui veulent qu'à Paris, ça change. Et croyez-moi, Monsieur Bourdin, et les gens ne peuvent pas en douter, si demain je suis maire de Paris, ils verront le changement immédiatement. Paris ne sera pas le Paris d'aujourd'hui.
Bien, Rachida Dati, rassemblement interdit pour des raisons sanitaires à Paris avant-hier soir, à l'appel du comité de soutien à la famille d'Adama Traoré. Il y a eu des incidents à la fin du rassemblement, des interpellations. Il y avait à peu près 20 000 personnes dans cette affaire Traoré. Expertise, contre-expertise. Maintenant, on fait un parallèle avec la mort de George Floyd aux États-Unis. Non, pourquoi dans cette affaire est-ce si long pour connaître la vérité? Vous avez été garde des Sceaux.
Moi, j'ai été garde des Sceaux et je vais vous dire, je vais même bien aller en amont. Oui. J'étais conseillère de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur.
Oui.
On a connu en 2005 des émeutes non-stop. En octobre, novembre, sous état d'urgence. L'état d'urgence avait été déclaré, non-stop. Avec Nicolas Sarkozy, on était sur le terrain tous les jours. Parce que quand on ne règle pas une situation, quand on laisse effectivement une fracture de la société s'amplifier, s'accentuer, à un moment donné, ça vous explose à la figure. Et certains, moi je me souviens de certains responsables politiques, à gauche notamment, en disant, moi je les avais signalés, alertés, par exemple, nous à l'époque au ministère de l'Intérieur, on sillonnait la France. Il y avait des foyers qui allaient nous exploser à la figure, juste pour vous dire. Certains disaient, non mais on s'en fiche, ça vote pas. Mais si ça vote pas, à un moment donné, ils viennent vous mettre le feu là où effectivement on n'a pas réglé les problèmes. Sur cette affaire, rappelez-vous, en 2005, on a eu aussi un drame de jeunes qui sont morts dans une centrale électrique. Maître Mignard, qui n'est pas de mon bord politique, il est socialiste. Il était conseiller de François Hollande. On a eu cette affaire, effectivement, sur ces demandes. Oui. Ça a généré beaucoup de défiance.
Le transformateur électrique.
Exactement. Oui. Beaucoup de problèmes. Avec M. Mignard, Nicolas Sarkozy avait reçu les familles, on a reçu les avocats. Lorsque j'étais garde des Sceaux,
aujourd'hui.
Justement, je vais vous dire.
Oui,
on a souhaité apaiser, on a ouvert une instruction, les partis ont eu accès au dossier, ils ont fait des demandes d'actes et on a laissé la justice faire son travail. Dans l'affaire Adama Traoré, et encore une fois, je ne connais pas tous les détails de cette affaire. Tout ce que je peux vous dire, et je suis aussi magistrat. Et j'ai été gardée sous. Vous avez raison.
Oui.
Dans cette affaire Adama Traoré, il faut le reconnaître. C'est que, dès le départ, l'affaire a été mal emmanchée. Pardon
Par qui par la police, la justice?
Non, parce qu'il y a eu d'abord des déclarations du procureur. Ensuite, il y a eu des expertises dont on n'a pas eu connaissance tout de suite. Ensuite, dans les expertises, il y a eu des expertises contradictoires, pas au sens juridique du terme, au sens contradiction du terme. Des médecins renommés. Certains disaient que c'était effectivement une mort par asphyxie, d'autres ont dit que c'était lié à une pathologie, et donc tout ça a généré beaucoup d'opacité, beaucoup de défiance.
Est-ce que le plaquage ventral exercé par les policiers et gendarmes qui est dénoncé doit être interdit?
Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut revoir la doctrine. Moi, je ne vais pas vous dire est-ce que ça existe. Je ne vais pas vous dire que le plaquage ventral, c'est une technique d'interpellation. De toute façon, le code de procédure pénale donne un cadre pour les actes, pour les policiers, pour les interpellations. Ensuite, c'est des pouvoirs d'appréciation. Ensuite, il peut y avoir une faute. Ça peut aller très plus loin. Tout ce que je peux vous dire, vous savez, l'histoire des États-Unis et celle d'en France.
Vous faites une comparaison.
Non, ça n'est pas la même histoire.
Ça n'est pas la même histoire.
Mais pour que ça suscite une telle émotion partout dans le monde, c'est qu'à un moment donné, il faut s'interroger. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des échanges. Oui. Moi, j'ai parlé à Emmanuel Macron depuis très longtemps de ce qui se passe dans nos quartiers populaires. Cette fracture, elle est profonde et depuis longtemps.
Devenir ministre d'Emmanuel Macron au passage, comme ça, puisque vous avez
franchement,
de bonnes
relations. Je vous dis.
Non, je vous dis, c'est comme ça, parce qu'on parle beaucoup de rassemblement.
D'abord, il ne me l'a jamais proposé.
Il
ne l'a jamais proposé. Et je veux vous dire.
Vous voyez travailler avec lui.
Mais moi, je n'ai jamais rien demandé à personne, et encore moins à M. Macron. Donc je suis très à l'aise. Simplement, je l'alerte, et moi, je lui ai toujours dit des choses, y compris parfois très désagréables, sur, effectivement, des choses dont ils ne tiennent pas compte. Regardez.
Le racisme dans les forces de l'ordre, vous y croyez ou pas? Parce que.
C'est un corps,
les violences policières.
Moi, je vous
dis. Il y a peut-être.
Pourquoi
un
je suis d'après
comme
vous
partout dans notre société.
Pourquoi je suis devenu magistrat d'après vous, Monsieur Bourdin?
Allez-y.
Et vous connaissez mon histoire.
Je connais votre histoire et votre parcours.
Et vous connaissez mon histoire familiale.
Oui.
Et vous connaissez mon histoire de la cité dans laquelle j'ai vécu. C'est pour ça que quand Monsieur Guérini du haut de sa gauche strauss-kahnienne me donne des leçons, qui se les garde et qui se les applique. Moi, je viens de très loin. Donc, si je suis devenu magistrat, c'est que j'ai compris que l'état de droit était aussi une protection.
Vous avez souffert du racisme, vous?
La question n'est pas moi, et ça n'est plus moi aujourd'hui.
Dans votre famille, on a souffert du racisme de la police?
Je suis devenue magistrat parce que je me suis dit, notre protection, c'est l'état de droit. Oui. Et donc, vous voyez, hier, en venant ici, ma sœur, j'ai une sœur qui vit à Londres. Et on discutait, et elle me dit, mais tu sais, Jean-Jacques Bourdin va t'interroger là-dessus, sur le racisme. Et je lui dis, écoute, tu sais, je ne peux pas répondre en disant que la France est raciste, c'est faux. Je ne peux pas dire que la police est raciste, c'est faux. Et je les défendrai toujours, toujours, je vous le dis. Qu'il y ait des dérives individuelles, c'est une chose. Ce corps est un corps extrêmement contrôlé. Et donc, elle me dit, d'accord Rachida, mais il y a une chose. Cette émotion que ça a suscité, est-ce que ça ne te renvoie pas à des choses que des gens que tu as défendus, des gens que tu as soutenus, contre lesquels on s'est battu, quand on était plus jeune, quand on habitait la cité de la liberté, à la cité du bout du lac, à la cité du stade? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui te reviennent en mémoire, Rachida? Nous, on ne dira pas. Nous, on est.
Qu'est-ce qui vous revient en mémoire alors?
Et donc, j'ai défendu. Parce que j'ai défendu. C'est pour ça que quand je vous dis sur la.
Rachida, qu'est-ce qui vous revient en mémoire?
Moi, je vais vous dire, c'est pas ce racisme-là dont il faut parler. Et ça n'est pas ma situation personnelle. Et donc, des choses me sont revenues en mémoire. Et ce que je veux vous dire, les Français ne sont pas racistes. Il n'y a pas de racisme d'État. Mais le racisme existe en France. Et il y a un racisme visible, celui qui est lié à l'origine ou la couleur de peau.
Dites-moi, mais les contrôles au faciès, il faut...
Justement, quand j'étais
procureur... mettre fin au contrôle au faciès.
Quand j'étais procureur de la République, bien sûr que ça existe.
Il faut mettre
fin. Moi, j'ai donné des réquisitions. Je contrôlais. La justice doit contrôler. Parfois, on donne des réquisitions de contrôle, d'identité, sans contrôle. Mais il y a un racisme qui est encore plus pernicieux. Le racisme social, Monsieur Bourdin. La crise des gilets jaunes, c'est quoi? Effectivement, problème de pouvoir d'achat. Vous croyez pas qu'un racisme social vis-à-vis des gens, ce qu'on appelle les petites gens, qui ne sont pas petits, au contraire, et qu'il y avait effectivement des manifestations pour le pouvoir d'achat. Mais ces gens-là, on les humilie, on les considère pas, on les traite mal. Et on en a eu tant besoin pendant cette crise sanitaire. C'est pour ça que j'avais alerté aussi de ce gouvernement. Attention à l'humiliation, à la non-considération et l'arrogance. Et là, vous vous rappelez, on disait la convergence des luttes. Là, il y a une convergence des crises. Et la crise sanitaire va laisser beaucoup de traces.
Vous êtes inquiète, là?
Je suis très inquiète. La crise sanitaire va laisser beaucoup de traces. Beaucoup. Pourquoi? Beaucoup vont être au tapis avec le chômage de masse qui va se créer. Et pas forcément très en haut. Tous ces gens-là. Et toutes ces... C'est pour ça que cette mobilisation va bien au-delà que simplement une mobilisation contre le racisme. C'est bien au-delà de cela. Et quand j'ai été garde des Sceaux, j'ai pris des politiques de lutte contre le racisme, de lutte contre l'antisémitisme, de lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris sur l'orientation sexuelle. Et vous le savez, moi, mes combats, ils sont là. Ça a été des combats de vie, mais pendant très longtemps. Et parfois, on n'échappe pas à son enfance, des combats de survie. C'est pour ça que, attention, ces combats-là, ce que l'on voit aujourd'hui, je pouvais me taire. Je pouvais vous faire une réponse très politiquement correcte parce que je suis en campagne. Je ne peux pas me taire. Aujourd'hui, c'est ce qu'il se passe. Il faut en tenir compte. Parce que beaucoup de politiques, je vous le dis, y compris ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, disent, c'est pas grave. Ces gens-là votent pas pour nous et ils ne votent plus. Ils ne votent plus. Et donc, c'est pas grave. On sera réélu par défaut. Et donc, avoir le pouvoir uniquement pour avoir le pouvoir, moi, j'aime trop mon pays. J'aime trop la France. Et si je suis là aujourd'hui face à vous, c'est la France qui m'a permis d'être ce que je suis. C'est la France qui m'a permis d'être à votre table aujourd'hui. Alors attention de ne pas perdre définitivement ce que la France a de mieux en elle. Et donc, ce qui se passe, au-delà de l'affaire Adama Traoré, c'est un sujet d'ensemble qui concerne nos gouvernants. Qui concerne nos gouvernants. Et d'ailleurs, pour Paris, je vous le dis, les territoires perdus de la République, ils existent au cœur de Paris. Ça existe au cœur de Paris. Et la population dont je vous parle aujourd'hui, le nord et l'est de Paris, oui, Madame Hidalgo, s'en fiche. Les gens qui sont parqués, maltraités, dans des conditions insalubres, dans le nord et l'est de Paris, dans le parc social, ils ne votent plus. Donc elles s'en fichent. C'est pas grave, c'est une reconduction, c'est une tacite reconduction. Moi, je dis à ces Parisiens, je dis aux Français, je dis aux citoyens, mobilisez-vous. Je ne soutiendrai pas les appels à l'émeute, les appels à la violence. Nous, on s'en est sortis sans émeute, sans violence. Simplement en défendant l'état de droit. Ces mobilisations, ils veulent un état de droit. Ils veulent de la considération. Ils veulent du respect. Il faut arrêter avec l'humiliation, l'arrogance et effectivement, finalement, ce racisme social. C'est un sujet qui nous concerne tous.
Merci, Rachida Dati, d'être venue nous voir ce matin sur RMC BFM TV. Il est 8h54.
RMC, 6h-9h.
Gourdin Direct.